Le message de Populorum Progressio. Plus de 40 ans après la publication de Populorum Progressio, sa relecture nous invite à rester fidèles à son message de charité et de vérité. En le replaçant dans le cadre du magistère propre de Paul VI et, plus généralement, à l'intérieur de la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Par ailleurs, il faut évaluer les multiples termes dans lesquels se pose aujourd'hui, à la différence d'alors, le problème du développement. Le point de vue correct est donc celui de la tradition de la foi des apôtres, patrimoine ancien et nouveau, hors duquel Populorum Progressio serait un document privé de racines et les questions liées au développement se réduirait uniquement à des données d'ordre sociologique. Populorum Progressio fut publié immédiatement après la conclusion du Concile œcuménique Vatican II. Dès ses premiers paragraphes, l'encyclique affirme son rapport intime avec le Concile. 20 ans plus tard, dans Sollicitudo Rei Socialis, Jean-Paul II soulignait à son tour le rapport fécond de cette encyclique avec le Concile et en particulier avec la constitution pastorale Gaudium et Spes. Je désire moi aussi rappeler ici l'importance du Concile Vatican II pour l'encyclique de Paul VI et à sa suite pour tout le magistère social des souverains pontifes. Le Concile a approfondi tout ce qui appartient depuis toujours à la vérité de la foi, c'est-à-dire que l'Église, qui est au service de Dieu, est au service du monde selon les critères de l'amour et de la vérité. C'est précisément de cette vision que partait Paul VI pour nous faire part de deux grandes vérités. La première est que toute l'Église, dans tout son être et tout son agir, tend à promouvoir le développement intégral de l'homme quand elle annonce, célèbre et œuvre dans la charité. Elle a un rôle public qui ne se borne pas à ses activités d'assistance ou d'éducation, mais elle déploie toutes ses énergies au service de la promotion de l'homme et de la fraternité universelle quand elle peut jouir d'un régime de liberté. Dans bien des cas, cette liberté est entravée par des interdictions et des persécutions, ou même limitée quand la présence publique de l'Église est réduite à ses seules activités caritatives. La seconde vérité est que le développement authentique de l'homme concerne unitairement la totalité de la personne dans chacune de ses dimensions. Sans la perspective d'une vie éternelle, le progrès humain demeure en ce monde privé de souffle. Enfermé à l'intérieur de l'histoire, il risque de se réduire à la seule croissance de l'avoir. L'humanité perd ainsi le courage d'être disponible pour les biens plus élevés, pour les grandes initiatives désintéressées qu'exige la charité universelle. L'homme ne se développe pas seulement par ses propres forces, et le développement ne peut pas lui être simplement offert. Tout au long de l'histoire, on a souvent pensé que la création d'institutions suffisait à garantir à l'humanité la satisfaction du droit au développement. Malheureusement, on a placé une confiance excessive dans de telles institutions, comme si elles pouvaient atteindre automatiquement le but recherché. En réalité, les institutions ne suffisent pas à elles seules, car le développement intégral de l'homme est d'abord une vocation et suppose donc que tous prennent leurs responsabilités de manière libre et solidaire. Un tel développement demande, en outre, une vision transcendante de la personne. Il a besoin de Dieu. Sans lui, le développement est nié ou confié aux seules mains de l'homme, qui s'expose à la présomption de se sauver par lui-même et finit par promouvoir un développement déshumanisé. D'autre part, Seule la rencontre de Dieu permet de ne pas voir dans l'autre que l'autre, mais de reconnaître en lui l'image de Dieu, parvenant ainsi à découvrir vraiment l'autre et à développer un amour qui devienne soin de l'autre, pour l'autre. Le lien existant dans Populorum Progressio et le Concile Vatican II ne représente pas une coupure entre le magistère social de Paul VI et celui des papes qui l'avaient précédé, étant donné que le Concile est un approfondissement de ce magistère dans la continuité de la vie de l'Église. En ce sens, certaines subdivisions abstraites de la doctrine sociale de l'Église sont aujourd'hui proposées qui ne contribuent pas à clarifier les choses, car elles appliquent à l'enseignement social pontifical des catégories qui lui sont étrangères. Il n'y a pas deux typologies différentes de doctrine sociale, l'une préconciliaire et l'autre post-conciliaire, mais un unique enseignement cohérent et en même temps toujours nouveau. Il est juste de remarquer les caractéristiques propres à chaque encyclique, à l'enseignement de chaque pontife, mais sans jamais perdre de vue la cohérence de l'ensemble du corpus doctrinal. Cohérence ne signifie pas fermeture, mais plutôt fidélité dynamique à une lumière reçue. La doctrine sociale de l'Église éclaire d'une lumière qui ne change pas les problèmes toujours nouveaux qui surgissent. Cela préserve le caractère à la fois permanent et historique de ce patrimoine doctrinal qui, avec ses caractéristiques spécifiques, appartient à la tradition toujours vivante de l'Église. La doctrine sociale est construite sur le fondement transmis par les apôtres aux pères de l'Église, reçu et approfondi ensuite par les grands docteurs chrétiens. Cette doctrine renvoie en définitive à l'homme nouveau, au dernier Adam qui est devenu l'être spirituel qui donne vie. Première lettre aux Corinthiens 15, 45. Principe de la charité qui ne passera jamais. Première lettre aux Corinthiens 13, 8. Elle reçoit le témoignage des saints et de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Christ Sauveur dans le domaine de la justice et de la paix. En elle s'exprime la mission prophétique des souverains pontifes, guider d'une manière apostolique l'Église du Christ et discerner les nouvelles exigences de l'évangélisation. C'est pour ces raisons que Populorum Progressio, inscrite dans le grand courant de la tradition, est encore en mesure de nous parler aujourd'hui. Outre son rapport avec l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église, Populorum Progressio est étroitement lié à tout le magistère de Paul VI, et en particulier à son magistère social. Cet enseignement social fut d'une grande portée. Il réaffirma l'importance déterminante de l'Évangile pour l'édification d'une société de liberté et de justice, dans la perspective idéale et historique d'une civilisation animée par l'amour. Paul VI comprit clairement que la question sociale était devenue mondiale, et il saisit l'interaction existant entre l'élan vers l'unification de l'humanité et l'idéal chrétien d'une unique famille des peuples, solidaire, dans une commune fraternité. Il désigna le développement, compris au sens humain et chrétien, comme le cœur du message social chrétien, et proposa la charité chrétienne comme force principale au service du développement. Poussé par le désir de rendre l'amour du Christ pleinement visible à ses contemporains, Paul VI affronta avec décision d'importantes questions morales sans céder aux faiblesses culturelles de son temps. Dans la lettre apostolique Octogessima Adveniens de 1971, Paul VI aborda par la suite la question du sens de la politique et du péril représenté par des visions utopiques et idéologiques qui compromettaient sa qualité éthique et humaine. Il s'agit de sujets étroitement liés au développement. Malheureusement, les idéologies néfastes ne cessent de fleurir. Conscient du grand danger de confier à la seule technique tout le processus du développement, qui ainsi demeurerait sans ligne directrice, Paul VI avait déjà mis en garde contre l'idéologie technocratique particulièrement forte aujourd'hui. Considérée en elle-même, la technique est ambivalente. Si d'un côté certains tendent aujourd'hui à lui confier la totalité du processus de développement, de l'autre on assiste à la naissance d'idéologies qui nient in toto l'utilité même du développement, qu'elles considèrent comme foncièrement anti-humain et exclusivement facteur de dégradation. Ainsi finit-on par condamner non seulement l'orientation parfois fausse et injuste que les hommes donnent au progrès, mais aussi les découvertes scientifiques elles-mêmes qui, utilisées à bon escient, constituent au contraire une occasion de croissance pour tous. L'idée d'un monde sans développement traduit une défiance à l'égard de l'homme et de Dieu. C'est donc une grave erreur que de mépriser les capacités humaines de contrôler les déséquilibres du développement ou même d'ignorer que l'homme est constitutivement tendu vers l'être davantage. Absolutiser idéologiquement le progrès technique ou aspirer à l'utopie d'une humanité revenue à son état premier de nature sont deux manières opposées de séparer le progrès de son évaluation morale et donc de notre responsabilité. Deux autres documents de Paul VI sont moins directement liés à la doctrine sociale. L'encyclique Humanae Vitae, du 25 juillet 1968, et l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, du 8 décembre 1975. Ils sont cependant très importants pour discerner le sens pleinement humain du développement proposé par l'Église. Il est donc opportun de les lire en les mettant eux aussi en relation avec Populorum Progressio. L'encyclique Humanae Vitae souligne la signification tout à la fois unitive et procréative de la sexualité, posant ainsi comme fondement de la société le couple des époux, hommes et femmes, qui se reçoivent l'un l'autre dans la distinction et dans la complémentarité. Entend donc que couple ouvert à la vie. Il ne s'agit pas ici de morale purement individuelle. Humanae Vitae montre les liens forts qui existent entre éthique de la vie et éthique sociale. En inaugurant une thématique magistérielle qui a pris corps dans différents documents, et finalement dans l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II. L'Église propose avec force ce lien entre éthique de la vie et éthique sociale, consciente qu'une société ne peut avoir des bases solides si, tout en affirmant des valeurs comme la dignité de la personne, la justice et la paix, elle se contredit radicalement en acceptant et en tolérant les formes les plus diverses de mépris et de violation de la vie humaine, surtout si elle est faible et marginalisée. L'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, pour sa part, est très étroitement liée au développement, dans la mesure où l'évangélisation, comme l'écrivait Paul VI, ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte des rapports concrets et permanents qui existent entre l'Évangile et la vie personnelle et sociale de l'homme. Entre l'évangélisation et la promotion humaine, développement, libération, il y a en effet des liens profonds. Conscient de cela, Paul VI établissait un rapport clair entre l'annonce du Christ et la promotion de la personne dans la société. Le témoignage de la charité du Christ à travers des œuvres de justice, de paix et de développement fait partie de l'évangélisation, car pour Jésus-Christ, qui nous aime, l'homme tout entier est important. C'est sur ces enseignements importants que se fonde l'aspect missionnaire de la doctrine sociale de l'Église en tant que composante essentielle de l'évangélisation. La doctrine sociale de l'Église est annonce et témoignage de foi. C'est un instrument et un lieu indispensable de l'éducation de la foi. Dans Populorum Progressio, Paul VI a voulu nous dire avant tout que le progrès dans son apparition et son essence est une vocation. Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer, car toute vie est vocation. C'est précisément ce qui autorise l'Église à intervenir dans les problématiques du développement. Si ce dernier ne concernait que des aspects techniques de la vie de l'homme, et non le sens de sa marche dans l'histoire avec ses autres frères, ou la définition du but d'un tel cheminement, l'Église n'aurait aucun titre pour en parler. Comme Léon XIII dans Rerum Novarum, Paul VI était conscient de s'acquitter d'un devoir propre à sa charge, en projetant la lumière de l'Évangile sur les questions sociales de son temps. Définir le développement comme une vocation, c'est reconnaître d'un côté qu'il naît d'un appel transcendant et de l'autre qu'il est incapable de se donner par lui-même son sens propre ultime. Ce n'est pas sans raison que le mot « vocation » revient dans un autre passage de l'encyclique où il est affirmé « Il n'y a donc d'humanisme vrai qu'ouvert à l'absolu, dans la reconnaissance d'une vocation qui donne l'idée vraie de la vie humaine. » Cette vision du développement est le cœur de Populorum Progressio et anime toutes les réflexions de Paul VI sur la liberté, la vérité et la charité dans le développement. C'est la raison principale pour laquelle cette encyclique demeure encore actuelle de nos jours. La vocation est un appel qui réclame une réponse libre et responsable. Le développement humain intégral suppose la liberté responsable de la personne et des peuples. Aucune structure ne peut garantir ce développement en dehors et au-dessus de la responsabilité humaine. Les messianismes prometteurs, mais bâtisseurs d'illusions, fondent toujours leurs propositions sur la négation de la dimension transcendante du développement, étant certains de l'avoir tout entier à leur disposition. Cette fausse sécurité se change en faiblesse parce qu'elle entraîne l'asservissement de l'homme, réduit à n'être qu'un moyen en vue du développement, tandis que l'humilité de celui qui accueille une vocation se transforme en autonomie véritable parce qu'elle libère la personne. Paul VI ne doute pas que les obstacles et des conditionnements freinent le développement, mais il reste certain que chacun demeure, quelles que soient les influences qui s'exercent sur lui, l'artisan principal de sa réussite ou de son échec. Cette liberté concerne le développement qui a lieu sous nos yeux, mais aussi en même temps les situations de sous-développement qui ne sont pas le fruit du hasard ou d'une nécessité historique, mais qui dépendent de la responsabilité humaine. C'est pourquoi les peuples de la faim interpellent aujourd'hui de façon dramatique les peuples de l'opulence. Il s'agit là encore d'une vocation en tant qu'appel adressé par des hommes libres à des hommes libres, pour qu'ils prennent ensemble leurs responsabilités. Paul VI eut une compréhension pénétrante de l'importance des structures économiques et des institutions, mais il perçut tout aussi clairement qu'elles étaient des instruments au service de la liberté humaine. Le développement ne peut être intégralement humain que s'il est libre. Seul un régime de liberté responsable lui permet de se développer de façon juste. Outre la liberté, le développement intégral de l'homme comme vocation exige aussi qu'on en respecte la vérité. La vocation au progrès pousse les hommes à faire connaître et avoir plus pour être plus. Mais là est le problème. Que signifie être davantage ? À cette question, Paul VI répond en indiquant la caractéristique essentielle du développement authentique. Il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Parmi les différentes visions concurrentes de l'homme proposées dans la société d'aujourd'hui, plus encore qu'au temps de Paul VI, la vision chrétienne a la particularité d'affirmer et de justifier la valeur inconditionnelle de la personne humaine et le sens de sa croissance. La vocation chrétienne au développement aide à poursuivre la promotion de tous les hommes et de tout l'homme. Paul VI écrivait « Ce qui compte pour nous, c'est l'homme. Chaque homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. » La foi chrétienne se préoccupe du développement sans s'appuyer sur des privilèges ou sur des positions de pouvoir, ni même sur les mérites des chrétiens qui ont certes existé et existent encore aujourd'hui, en même temps que leurs limites naturelles, mais uniquement sur le Christ à qui doit être rapportée toute vocation authentique au développement humain intégral. L'Évangile est un élément fondamental du développement parce qu'en lui le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Éduquée par son Seigneur, l'Église scrute les signes des temps et les interprète, et elle offre au monde ce qu'elle possède en propre, une vision globale de l'homme et de l'humanité. Précisément parce que Dieu prononce le plus grand « oui » à l'homme, l'homme ne peut faire moins que de s'ouvrir à l'appel divin pour réaliser son propre développement. La vérité du développement réside dans son intégralité. S'il n'est pas de tout l'homme et de tout homme, le développement n'est pas un vrai développement. Tel est le centre du message de Populorum Progressio, valable aujourd'hui et toujours. Le développement humain intégral sur le plan naturel, réponse à un appel du Dieu créateur, demande de trouver sa vérité dans un humanisme transcendant qui donne à l'homme sa plus grande plénitude. Telle est la finalité suprême du développement personnel. La vocation chrétienne à ce développement concerne donc le plan naturel comme le plan surnaturel. C'est pourquoi, quand Dieu est éclipsé, notre capacité de reconnaître l'ordre naturel, le but et le bien commence à s'évanouir. Enfin, la vision du développement en tant que vocation implique que la charité y occupe une place centrale. Dans l'encyclique Populorum Progressio, Paul VI observait que les causes du sous-développement ne sont pas d'abord d'ordre matériel. Il nous invitait à les rechercher dans d'autres dimensions de l'homme. Tout d'abord dans la volonté, qui se désintéresse souvent des devoirs de la solidarité. En second lieu, dans la pensée, qui ne parvient pas toujours à orienter convenablement le vouloir. C'est pourquoi, dans la quête du développement, il faut des sages de réflexion profonde à la recherche d'un humanisme nouveau qui permette à l'homme moderne de se retrouver lui-même. Mais ce n'est pas tout. Le sous-développement a une cause encore plus profonde que le déficit de réflexion. C'est le manque de fraternité entre les hommes et entre les peuples. Cette fraternité, les hommes pourront-ils jamais la réaliser par eux seuls? La société, toujours plus globalisée, nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. La raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Celle-ci naît d'une vocation transcendante de Dieu Père, qui nous a aimés en premier, nous enseignant par l'intermédiaire du Fils ce qu'est la charité fraternelle. Dans sa présentation des différents niveaux du processus de développement de l'homme, Paul VI, après avoir mentionné la foi, mettait au sommet l'unité dans la charité du Christ qui nous appelle tous à participer en fils à la vie du Dieu vivant, Père de tous les hommes. ces perspectives ouvertes par Populorum Progressio demeurent fondamentales pour donner une envergure et une orientation à notre engagement au service du développement des peuples. Populorum Progressio souligne ensuite à plusieurs reprises l'urgence des réformes et demande que, face au grand problème de l'injustice dans le développement des peuples, on agisse avec courage et sans retard. Cette urgence est dictée aussi par l'amour dans la vérité. C'est la charité du Christ qui nous pousse, Caritas Christi urget nos. Seconde lettre aux Corinthiens 5, 14. L'urgence n'est pas seulement inscrite dans les choses, elle ne découle pas uniquement de la pression des événements et des problèmes, mais aussi de ce qui est proprement en jeu, la réalisation d'une authentique fraternité. L'importance de cet objectif est telle qu'elle exige que nous la comprenions pleinement et que nous nous mobilisions concrètement, avec le cœur, pour faire évoluer les processus économiques et sociaux actuels vers des formes pleinement humaines.